Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l'actualité qui a marqué cette année. Aujourd'hui, on parle offensive russe en Ukraine, sans doute l'événement géopolitique de 2022. On reviendra sur ce qui a poussé Vladimir Poutine à entrer en guerre, sur la résistance farouche et inattendue des Ukrainiens. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. 24 février 2022, vers 5h30, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine annonce à la télévision, je cite, « une opération spéciale en Ukraine ». Quelques minutes plus tard, des explosions retentissent un peu partout en Ukraine, les forces russes passent la frontière. En près d'un an de guerre, on a annoncé une défaite rapide des Ukrainiens, on a évoqué la menace nucléaire, un enlisement du conflit, puis une contre-offensive menée par les forces de Kiev. Cette crise, Le Soir vous en a parlé, voici les titres de l'année. 25 février, la guerre en Europe. 7 mars, le drame de Mariupol. 1er avril, Zelensky aux Belges, la paix a plus de valeur que les diamants. 4 avril, les martyrs de Boutcha. 17 juin, des promesses musclées pour rassurer Kiev. 12 août, l'amorce d'une contre-attaque ukrainienne. 11 octobre, la vengeance sanglante. 16 novembre, guerre en Ukraine, une explosion en Pologne fait craindre l'escalade. Et pour en parler avec nous, Marine Buisson et Philippe Renier du Service Monde. Bonjour Marine.
Bonjour Pierre.
Et bonjour Philippe.
Bonjour.
Un moment, une séquence que vous retenez sur le conflit depuis le 24 février dernier, Marine.
C'est très compliqué, une, mais je crois que pour moi, c'est l'attentat sur la gare de Kramatorsk en avril. Pour une bonne raison, c'est que Philippe, qui est là, était en reportage en janvier, donc avant la guerre là-bas, qui nous avait envoyé justement des photos de cette gare. Et là, c'était une boucherie, quoi, de voir des petits corps d'enfants recouverts d'un drap. C'était vraiment très réel. Enfin, ça devenait encore plus réel parce qu'on avait un collègue qui était là-bas avant. Donc pour moi, c'est ça. Mais après, il y a eu plein d'autres moments dramatique et très marquant.
Philippe, dans cette litanie d'événements dramatiques, il y en a un qu'on retient plus qu'un autre?
Un que moi je mettrais en exergue, mais j'aurais pu en trouver d'autres évidemment, parce que j'estime que ça a été le véritable tournant déjà de cette guerre, mais au bout de seulement quelques jours, à savoir les images de ces civils de Kiev qui se préparaient à prendre les armes et à confectionner des cocktails Molotov dans l'idée de les lancer sur les chars russes quand ils entreraient dans la capitale ukrainienne. Cette détermination qui, bien sûr, a joué un rôle, mais certainement moindre que celle de l'armée ukrainienne qui a repoussé l'offensive lancée sur la capitale. Cette détermination me semble être le tournant capital de cette guerre, parce que au lieu de voir Kiev tomber aux mains de la Russie en quelques heures, eh bien, la guerre se poursuit, puisque la résistance ukrainienne se poursuit face aux tentatives du Kremlin de mettre la main sur le pays, ou en tout cas des parties de celui-ci.
Justement, au début de l'invasion, les observateurs annonçaient une guerre éclair, la chute de Kiev en 3 jours. Au final, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est principalement parce que les Russes n'avaient pas anticipé cette résistance dont allaient se montrer capables les Ukrainiens.
Vraisemblablement, oui, effectivement. En fait, il y a énormément de surprises et de raisons aussi pour expliquer tout ce déroulement. Il faut donc rappeler que, en fait, ça faisait des mois que les Ukrainiens et dans leur foulée les États-Unis et à l'OTAN, on alertait sur l'imminence d'une incursion, voire peut-être d'une invasion russe de l'Ukraine. Ça s'était déjà produit au printemps 2021, donc presque un an plus tôt. L'armée russe était déjà massée aux frontières de l'Ukraine avant de procéder à un retrait. Déjà à l'époque, ces manœuvres avaient été très suspectes. On s'était demandé ce que ça voulait dire. Et rapidement, on s'était rendu compte que si les soldats avaient fait marche arrière, le matériel était bien resté sur place. Et puis, à l'automne 2021, le scénario se reproduit. On voit les troupes de nouveau s'amasser aux frontières de l'Ukraine, soi-disant pour des exercices, mais ça n'est pas très crédible. Mais en même temps, tout le monde était dans une forme d'incrédulité. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir gagner à rentrer dans un pays.
Il ne va pas oser envahir comme ça un pays.
Dont on supposait quand même déjà à ce moment-là qu'une très large majorité de la population ne verrait pas cette invasion d'un bon œil et n'accueillerait pas cette invasion les bras ouverts.
Et les habitants sur place qu'on a essayé de joindre vraiment juste avant l'invasion en tant que telle, donc les Ukrainiens ou les Belges installés en Ukraine, nous disaient mais bien sûr que non, ça peut pas se passer, c'est absolument impossible que, enfin, qui débarque comme ça. Nous, la guerre, on la connaît depuis 2014. Là, c'est impossible, quoi.
Et c'est probablement, selon toutes les explications que l'on connaît à ce stade des prémices de la guerre, c'était au contraire ce que Vladimir Poutine, un peu isolé dans sa tour d'ivoire, craignant comme la peste le Covid, n'écoutant plus que lui-même et un cercle très restreint de conseillers. Eh bien, lui était persuadé que l'entrée dans le pays ne se ferait qu'en quelques jours et que ça n'en ferait qu'une bouchée de pain, en quelque sorte. Et donc, effectivement, la résistance de la population et la contre-offensive, ou en tout cas la résistance, la défense de l'armée ukrainienne qui, depuis déjà des années, était sur pied de guerre, a été suffisante pour, en tout cas, déjouer ce scénario d'une chute de Kiev et d'un remplacement du pouvoir en place par un pouvoir fantoche aux mains de la Russie, eh bien ce scénario a été déjoué.
Marine, dès qu'on apprend le début de cette offensive, vous cherchez à vous rendre en Ukraine et évidemment c'est compliqué, c'est pas possible et vous êtes bloqué à la frontière polonaise.
Oui, ça a été... On s'est décidé assez vite, hein, mais je pense comme tous les journalistes. C'était très compliqué d'enjoindre l'Ukraine. Le seul moyen de s'en rapprocher, c'était d'aller à la frontière polonaise. Mais il y avait déjà beaucoup de choses à raconter en étant là-bas, parce qu'il y avait donc cet afflux d'Ukrainiens.
De dizaines de milliers d'Ukrainiens.
Impressionnant, qui fuyaient le pays. Et c'était vraiment les tout premiers jours. On est arrivé au poste frontière et on voyait ces gens qui avaient leur maison dans des espèces de sacs plastiques, des femmes, des enfants principalement, des étrangers beaucoup. Et c'était déjà très très impressionnant à voir et ça racontait déjà beaucoup de choses. Aller après rentrer sur le territoire ukrainien, c'était possible mais très compliqué parce que justement il y avait cet afflux de réfugiés. Donc si on était rentré à ce moment-là, on serait resté bloqué entre guillemets dans le flux. Mais il y avait déjà tellement de choses à raconter en étant dans ce périmètre-là que c'était une chance d'y être, vraiment.
Philippe, assez vite, l'Union européenne comme les États-Unis condamnent l'invasion et offrent une aide logistique, militaire et financière à l'Ukraine, une aide qui est absolument indispensable aujourd'hui aux Ukrainiens.
Alors aujourd'hui certainement, parce que sur le plan de l'aide humanitaire, Marine vient d'en parler, évidemment il y a les réfugiés ukrainiens dans les pays de l'Union européenne, voire ailleurs, mais il y a énormément de déplacés aussi au sein même du pays, et puis les destructions font que l'aide humanitaire est indispensable, l'aide financière même topo, parce que l'économie ukrainienne forcément tourne plus qu'au ralenti vu les circonstances, et l'aide militaire, c'est celle qui jusqu'ici a quand même permis à l'armée ukrainienne de résister, de ne pas tomber, parce que si bien sûr elle était déjà largement formée pour se battre, il faut quand même évidemment avoir les moyens matériels pour contrer ceux de la Russie, qui est quand même la deuxième armée la plus puissante au monde, même si elle a été... On a plutôt été surpris par son... puissance, en tout cas.
On l'avait un peu surévalué, peut-être.
En tout cas, sur ce terrain-là, oui, puisque, de fait, on a vu combien la petite armée ukrainienne a pu faire face à l'envahisseur russe.
Ce soutien conditionnel des États-Unis, de l'Europe occidentale, il ne faiblit pas avec les mois de guerre?
Pour l'instant, non. On n'est pas encore à un an. Et beaucoup redoutent que ça n'est pas terminé et que ça pourrait durer très longtemps. Mais en réalité, jusqu'ici, effectivement, ce soutien non seulement se maintient, mais même s'est amplifié. C'est un soutien donc à la fois donc à l'Ukraine, mais c'est aussi toute la batterie de sanctions décrétées contre le Kremlin. Il faut se rappeler aussi que dans la séquence qui a précédé le 24 février, c'était ça un peu l'enjeu. Depuis qu'on voyait donc cet amassement de troupes aux frontières et que la crainte se renforçait d'une invasion, les Occidentaux, Européens et Américains avaient brandi la menace de sanctions très importantes qui allaient certainement être d'un tout autre acabit que celle décrétée en 2014 quand la Russie annexe la Crimée et commence à fomenter les troubles dans le Donbass, dans un esprit de dissuasion. C'était l'idée, c'était de dissuader Poutine de passer à l'acte. D'autant que, je rappelle, on se disait, ok, il peut rentrer, même renverser Kiev en deux coups de cuillère à peau, mais après, comment va-t-il occuper à long terme un pays qui lui est hostile? Bon, donc cette dissuasion était déjà à l'esprit. Pendant qu'en même temps, les derniers efforts diplomatiques étaient en cours, il y a eu des sommets Biden-Poutine, il y a eu leur chef de la diplomatie qui se sont longuement parlé, il y a eu des moments encore en janvier où Poutine annonçait un retrait des troupes, mais sur le terrain, ça ne se voyait pas. Des promesses que jamais, évidemment, il n'entrerait en Ukraine, et puis tout ça s'est quand même matérialisé, et de fil en aiguille, alors, les sanctions ont été décrétées, de plus en plus sévères, de plus en plus compliquées à adopter, parce qu'on le voit bien aujourd'hui avec la crise énergétique, certaines de ces mesures ont un effet collatéral négatif sur nos économies et notre tissu social aussi, et donc c'est pas évident. Mais quand on fait un peu le bilan, qu'on prend un peu de recul, se dire que la Russie, qui ne vivait essentiellement que grâce aux revenus de ses hydrocarbures, n'a plus comme client à peu près aujourd'hui, et en tout cas demain matin, les Européens, c'est énorme. On a coupé tout approvisionnement, enfin c'est pas encore totalement en place, mais c'est en passe de l'être, de gaz et de pétrole russe, et c'est énorme comme mesure.
Marine, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'est la personnalité qui a émergé de ce conflit.
C'est devenu un héros, en fait, pas forcément par ses actions, mais parce que le peuple ukrainien a fait de lui un héros. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'antithèse de Poutine, finalement, tant au niveau de la génération que du style politique. Et Zelensky, il a été vraiment porté par la population ukrainienne, par la résistance ukrainienne. Le fait qu'il ait jamais quitté, qu'il ait pas fui, en fait, le pays, ça, je pense que juste cet acte-là, ça a fait de lui une icône. Le fait qu'il, après, c'est tout un style, c'est aussi de la communication.
Oui, quand il s'est filmé avec des généraux dans des caves très mal éclairées.
Le fait, même la manière dont il s'habille, là on l'a encore vu quand il se rend aux États-Unis. Non, il va pas mettre un costume, il va pas mettre une cravate. Il vient avec son pull kaki, son treillis militaire, ses chaussures pour dire voilà, moi je suis chef de guerre, je suis bien sûr président, mais chef de guerre. Donc évidemment, sa personnalité, elle a émergé en tout cas parce que il était chef de guerre. Quand il a été élu en 2019, c'était un candidat qui avait un passé de comédien, de comique. La mue a été absolument, ça c'est incroyable en fait, on n'arrive même pas à se souvenir de comment est-ce qu'il était avant, et même ça se voit sur ses traits physiquement, c'est un vrai chef de guerre. Est-ce que c'est un héros parce que, enfin ça, le temps et l'histoire vont nous le dire, mais en tout cas son peuple a fait de lui un héros.
Philippe, en face, Vladimir Poutine, il est complètement seul sur son île. Aussi, on parlait tout à l'heure du soutien des États-Unis et de l'Europe occidentale à l'Ukraine. Qui soutient encore la Russie?
Pas grand monde. En tout cas, ce qu'on a vu ces dernières semaines, voire peut-être depuis 2-3 mois, c'est qu'il y a des velléités de l'Iran d'aider militairement la Russie en livrant des drones qui sont abondamment utilisés pour détruire toute l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Et ça veut dire l'électricité, mais aussi les systèmes de chauffage, de l'alimentation en eau, etc. Donc c'est une nouvelle source de catastrophe humanitaire évidente. L'Iran qui, en retour, semble devoir bénéficier d'appui militaire de la part de la Russie. Donc c'est une relation donnant-donnant. On a soupçonné à un moment donné, mais ça me semble être beaucoup plus difficile à concrétiser, que la Corée du Nord pourrait éventuellement aussi prêter main forte à la Russie, mais la distance fait que ça semble être très complexe. Et sinon, donc ça c'est sur le plan du soutien militaire. Jusqu'à être plus amplement informé, on a la certitude à ce stade, ou quasi certitude, que la Chine s'est bien gardée d'apporter ce soutien, un soutien de ce type-là. La Chine ayant été d'ailleurs dûment avertie aussi par les Occidentaux que si elle franchissait ce pas, elle subirait les mêmes foudres que celles qui sont aujourd'hui abattues sur le Kremlin. Et néanmoins, la Chine maintient quand même une forme de complicité. Il faut se rappeler aussi que juste avant l'invasion du 24 février, c'est le début des Jeux Olympiques de Pékin, et Vladimir Poutine et le président chinois Xi se retrouvent sur place et signent là une longue déclaration d'amitié éternelle qui globalement adhère au récit à ce moment-là de la Russie, qui est qu'il faut se prémunir d'un impérialisme de l'OTAN,
d'une menace de l'OTAN,
voilà, qui nous encercle et qui nous veut du mal. Et donc dans ce cadre-là, il y a quand même un pacte qui est scellé. On pense aujourd'hui que ce jour-là, Poutine n'a pas dit à Xi exactement ce qu'il comptait faire en Ukraine, ce que le président chinois semble lui reprocher. Mais bon, voilà, à ce stade, la Chine ne s'est pas totalement désolidarisée des actions de la Russie, en tout cas sur le plan de la rhétorique et des arguments, non sans appeler quand même à la paix, et ou en tout cas des négociations de paix, à dénoncer les menaces de recours à l'arme nucléaire que la Russie n'a pas vraiment remisé au placard. Et alors on voit dans le reste du monde que beaucoup de pays entrevoient ce conflit entre l'Ukraine et la Russie comme une histoire très lointaine et qui est au pire seulement une histoire qui concerne les Européens. Et vu tous les désagréments, pour utiliser un terme très léger, qu'ils subissent en retour, à savoir que donc effectivement il y a une crise énergétique, il y a une crise alimentaire, tout ça n'est pas dû à la guerre en Ukraine, mais ça n'a évidemment rien arrangé. Il y a une crise financière, une crise de la dette. Ils n'ont pas vraiment tout de suite l'intention de se précipiter vers la Russie, mais ils ne sont pas non plus dans une condamnation la plus totale.
Une des choses qui est aussi intéressante, je crois, quand on parle de est-ce que Poutine est isolé, donc là on parle de Poutine isolé face au reste du monde, mais même chez lui, au sein de la Russie, dans son propre cercle, Philippe disait tout à l'heure, quand il décide de lancer une offensive, une véritable offensive, il y a une déconnexion complètement totale de la réalité du terrain ukrainien, et le fait qu'il soit entouré de militaires ou de conseillers qui finalement ne lui disent pas la vérité, ou même un peu le cajole et le garde un petit peu loin de toute sa réalité, ça l'isole lui-même encore plus. Bien sûr, on ne peut pas vérifier exactement qui il y a dans son cercle.
Et qui lui dit quoi, et quel mémo est-ce qu'il reçoit.
Et qui lui dit quoi, évidemment, mais il y a un peu un côté déconnexion aussi de la réalité du terrain qui porte préjudice à son action.
Et l'opération de mobilisation de 300 000 jeunes et moins jeunes russes incorporés quasiment à la pointe de la baïonnette pour participer à cette guerre n'a probablement pas arrangé les choses. Alors il y a bien sûr des ultranationalistes et beaucoup de gens qui boivent à longueur de journée la propagande qui se déverse sur les télévisions d'État en continu évidemment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui tout à coup en tout cas ont eux aussi pris conscience de ce que, si l'appellation officielle est toujours une opération militaire spéciale, eh bien, il y a énormément de morts et donc cette guerre est rentrée dans les familles comme on dit, et si ça n'est pas encore les prémices d'une révolution populaire contre le Kremlin, certainement que la cote de popularité du président est en chute libre.
Marine, la maternité de Mariupol, les martyrs de Boutcha, il y a plusieurs événements qui ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est propre à cette offensive ou est-ce que la guerre, de toute manière, c'est toujours sale?
La guerre, de toute façon, ça reste des hommes et des femmes qui meurent au combat, donc c'est sale. Après, la guerre, elle a ses règles. Comme pour tout, il y a des lois. Effectivement, il y a eu des qualifications de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. L'Ukraine parle même de génocide. Ça, c'est encore un peu compliqué. On a encore, je pense, trop le nez dedans pour savoir qualifier précisément ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Ça, c'est indéniable. Et qu'on s'en rend compte à chaque retrait russe, en fait. À chaque fois que la Russie se retire d'un territoire, à chaque fois qu'une ville est libérée par l'armée ukrainienne, ça, c'est son lot d'horreur qui arrive. On a vu ça à Boutcha, à Irpin, à Izium. Et donc, il y a le fait de cibler des civils ou des infrastructures civiles comme une maternité, comme une école, ça c'est qualifié de crime de guerre, il n'y a pas de débat. Le fait d'utiliser de la torture, parce qu'on a retrouvé des salles de torture, c'était à Kherson, ça aussi c'est qualifié de crime de guerre, donc il y a des enquêtes qui sont en cours.
Et l'arme du viol.
Le viol comme arme de guerre, le fait de prendre des enfants et de les déporter en Russie, des enfants ukrainiens, tout ça c'est qualifié de crime de guerre. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours, mais le travail est très compliqué parce qu'on enquête sur une guerre en cours. Donc il y a des personnes qui doivent collecter des preuves, établir des rapports, mais leur travail est infiniment compliqué parce que le conflit est en cours, enfin la guerre est en cours, les combats sont en cours, et ça va prendre beaucoup de temps pour savoir précisément comment est-ce qu'on peut qualifier tous ces actes-là.
Philippe, au fil des semaines, les Ukrainiens ont repris du territoire, on l'a dit, ont chassé les Russes de certaines villes. Est-ce qu'ils sont en train de gagner la guerre ?
Non, mais les Russes non plus. C'est très difficile à dire, évidemment. Alors, surtout des prédictions dans cette triste affaire qui nous en a déjà réservé beaucoup des surprises. Donc non, on ne peut pas dire qu'à ce stade, ils sont en train de gagner la guerre. Ils ont effectivement engrangé des succès assez importants puisqu'ils ont repris une partie des territoires qui avait été conquis par la Russie. Donc, si on fait le bilan en fin d'année de qui a le plus progressé, ben bon, d'abord, on observera que la Russie, qui avait déjà une main ou un pied dans le Donbass, a élargi largement sa présence sur le territoire ukrainien, mais qu'en début septembre, etc., octobre, les contre-offensives ukrainiennes ont fait que les Ukrainiens ont repris une partie du territoire qu'ils avaient perdu. Alors maintenant, que va-t-il se passer ? C'est l'hiver, on passe de la saison des grandes boues à la saison du gel du sol. Pendant la grande boue, on a vu que sur un certain nombre de parties de la ligne de front, les deux parties se sont employées à fortifier leurs défenses, à creuser des tranchées, on est en 1914 là, à creuser des tranchées, à mettre des obstacles au passage de véhicules blindés, etc. Est-ce que ça veut dire que pendant tout l'hiver, ils vont rester au froid dans leur trou ?
Sur leur position.
Ou bien, est-ce que à un moment donné, quand le sol sera suffisamment gelé, l'un ou l'autre, ou les deux, vont repartir à l'offensive ? C'est extrêmement difficile à dire.
Sachant que les Russes sont un peu désavantagés en termes de matériel, leurs vêtements, leurs chaussures, tout ça, ça devient presque obsolète. De ce côté-là, l'armée ukrainienne est en tout cas mieux préparée au froid, on va dire, que l'armée russe.
Après, donc, c'est ça, il faut voir comment les choses vont évoluer. Ce qui est certain, c'est que pour gagner la guerre, si l'on s'en tient aux objectifs fixés par Zelensky, il reste beaucoup à faire parce que son objectif, parmi d'autres, outre celui de, par exemple, faire payer les dégâts à la Russie, c'est de libérer tout le territoire, ce qui veut dire les territoires dont on parle maintenant, la ligne de front, etc., mais aussi toute la Crimée.
Et tout le Donbass.
Et tout le Donbass. Donc, effectivement, c'est loin d'être fait. Déloger jusqu'au dernier soldat russe, ça ne se fera pas sans encore des bilans humains terrifiants. Donc, c'est très difficile de voir qui va gagner et quand.
Et ce serait de toute façon très difficile de convaincre les Ukrainiens qui doivent aujourd'hui renoncer à quoi que ce soit. Donc, rien que pour les amener à une table de négociation et leur dire il faudra renoncer éventuellement à ce bout de territoire-là ou ce bout de territoire-là, ça semble complètement irréaliste.
Merci beaucoup Philippe.
Avec plaisir.
Merci Marine.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.